Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Sous un soleil de plomb en ce 15 août 29 avant Jésus-Christ, trois jeunes enfants défilent à Rome lors du triomphe d'Octave, futur premier empereur de Rome. Mais pourquoi ont-ils les larmes aux yeux? N'est-ce pas un événement heureux? Alors non, pour eux, vraiment pas. Enchaînés, ils sont en train de vivre une terrible humiliation, celle réservée aux vaincus. Leurs parents ont été défaits par Octave à la bataille navale d'Actium 2 ans plus tôt. Vous avez deviné? Il s'agit là des enfants des amants les plus célèbres de l'Antiquité, Marc-Antoine et Cléopâtre. Trimballés dans les rues de la capitale, sous les insultes des Romains, les enfants suivent une statue de leur mère. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, du haut de ses 10 ans, porte justement le même prénom qu'elle. C'est Cléopâtre, c'est l'aînée. Alors elle est l'aînée, certes, oui, mais elle partage cette place avec un frère jumeau. Sélénée, c'est son surnom, la déesse de la lune dans la mythologie grecque. Son frère, c'est Alexandre Hélios, le dieu du soleil. Pourquoi des références aux divinités grecques alors que leur mère est reine d'Égypte? Tout simplement parce que ses enfants sont nés au carrefour des plus grandes civilisations de l'histoire. Leur mère, Cléopâtre VII, appartient à la dynastie Lagide, aussi dite des Ptolémées, ces pharaons d'origine grecque qui règnent sur l'Égypte depuis le 3e siècle. Elle descend d'Alexandre le Grand et après avoir été la compagne de Jules César est devenue l'amante du général romain Marc-Antoine. Ensemble, ils règnent sur l'Égypte depuis la somptueuse capitale, Alexandrie. À Rome, Octave, le fils adoptif de César, ne l'entend pas de cette oreille. Et vous connaissez la suite. Pour ne pas tomber aux mains des Romains, les amants se suicident, tandis que Césarion, le fils de César et Cléopâtre, le frère aîné de Sélénée, est égorgé. Voilà donc une orpheline de 10 ans, Cléopâtre Sélénée, qui passe du faste de la belle Alexandrie à l'humiliation romaine. En 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient une province de Rome. Et pour couronner le tout, ses parents sont victimes d'une épreuve encore pire que la mort, la damnatio memoriae. C'est la condamnation de la mémoire, l'interdiction du souvenir. Mais elle, elle sait. Elle n'oublie jamais d'où elle vient, quand bien même elle grandit chez l'ennemi. Son éducation est confiée à Octavie, la sœur d'Octave, qui a été mariée à son père, Marc-Antoine. Elle grandit donc aux côtés de ses 2 demi-sœurs. Alors que ses frères sont tôt ou tard assassinés, éliminés par le vainqueur romain, Cléopâtre Sélénée est désormais la seule rescapée de la dynastie des Ptolémées. En 27 avant Jésus-Christ, à Rome, Octave prend le titre d'Auguste. C'est le début de l'Empire romain qui comprend, entre autres, le royaume de Maurétanie. Attention, rien à voir avec la Mauritanie.
Ah, j'aurais fait l'erreur, Stéphane.
Cette région antique correspond à l'ensemble que formeraient aujourd'hui le Maroc et l'Algérie. Auguste nomme roi de Maurétanie Juba, un officier berbère d'une 20aine d'années, fils de l'ancien roi de Numidie, aujourd'hui le Constantinois. Mais bien qu'originaire de la région, celui-ci ne la connaît pas. Son père a été tué lors d'une guerre contre Jules César, qui cherchait à étendre son influence et se battait pour les ressources naturelles d'Afrique du Nord. Juba, prisonnier à l'âge de 3 ans, a été élevé à Rome, chez la femme de l'assassin de son père, Calpurnia. Son parcours ressemble beaucoup à celui de Cléopâtre Sélénée. Maintenant que la Maurétanie a un roi, il lui faut une reine. Sur une idée d'Octavie qui s'est attachée à sa prisonnière, Cléopâtre Sélénée est envoyée auprès de Juba II. Elle a 20 ans, il en a 8 de plus. Si elle ne croit pas avoir hérité de la beauté de sa mère, elle rayonne elle aussi par son intelligence. Les époux règnent sur les Berbères en terre de Maurétanie. Leurs origines différentes, ils en font une force. Elle parle grec et égyptien, mais pas le berbère. Lui est kabyle et parle punique, langue de Carthage, le libyque et le grec. Très éduquée et lettrée, Cléopâtre Sélénée veut assouvir sa soif de vengeance contre Rome. Pas dans la guerre ni dans le sang, non. C'est d'abord une revanche culturelle et religieuse qui est à sa portée. En mettant en avant sa culture égyptienne et grecque, elle s'émancipe ainsi de Rome. Leurs représentations sur les pièces de monnaie témoignent de la richesse et de la diversité de leur culture. Déjà, ils sont les seuls à avoir des monnaies d'or comme les Romains. Ensuite, ils n'hésitent pas à afficher leurs origines. En légende, pour lui, il est écrit « Rex Juba », en latin donc, tandis qu'elle fait écrire « Cléopâtre Basilissa » en grec. Elle se fait représenter avec des éléments de chez elle, crocodile des eaux du Nil, fleur de lotus, corne de la déesse Hathor, grand aigle d'Alexandrie, ou bien avec la coiffe à tête d'éléphant qui symbolise l'Afrique. Dans l'architecture, c'est pareil. Ils font de Césarée, l'actuelle Cherchel en Algérie, la capitale de la Maurétanie, et ils font construire un palais aux colonnes venues d'Égypte et un phare, alors que le seul phare à l'époque est celui d'Alexandrie, bien sûr. Ils perpétuent le culte égyptien en faisant construire un temple d'Isis. Ils développent aussi leur cité du Maroc comme Volubilis, qui voit sortir de terre Forum, temple de Saturne et d'Hercule, des dieux locaux, et Thermes. Et ce n'est pas terminé. C'est vrai que sous le règne de Cléopâtre, Sélénée et Juba II, la Maurétanie est prospère. Grenier de Rome à l'instar de l'Égypte, elle exporte et commerce son blé, son huile d'olive, son garum, l'équivalent du Nouoknam, mais surtout sa pourpre dans toute la Méditerranée. Après avoir voué à Rome une haine persistante, Cléopâtre Sélénée trouve la paix plutôt reposante, enfin, tant qu'elle dure. En épousant Juba, Cléopâtre Sélénée espère perpétuer la dynastie des Ptolémées. Pour cela, il lui faut s'assurer une descendance. De son union avec Juba II naît, après plusieurs enfants morts en bas âge, un fils en 5 ou 6 avant Jésus-Christ. Comment l'appeler ? Eh bien, Ptolémée, tout simplement. Quand disparaît Cléopâtre Sélénée ? Nous l'ignorons. Selon certains, en 5 ou 6 après Jésus-Christ. Selon d'autres, entre 14 et 17, quand le poète Crinagoras de Mytilène publie une épigramme funèbre en l'honneur d'une mystérieuse Sélénée. À moins qu'elle n'ait vécu autant que ses demi-sœurs qui verront trois empereurs se succéder à la tête de l'Empire romain. En 23, Ptolémée succède à son père à la tête du royaume de Maurétanie. Mais encore une fois, pour des questions de rivalité et de jalousie, le destin de la famille bascule. Quelques années plus tard, Ptolémée est convié à Rome par son cousin l'empereur Caligula. Il accepte l'invitation et franchit la Méditerranée. Mais voilà qu'au cours d'un spectacle de gladiateurs, il ose un terrible affront en portant un manteau de pourpre, la couleur impériale, et d'une pourpre plus belle que celle de l'empereur. Caligula, qui, rappelons-le, est un empereur fou et jaloux, le fait immédiatement assassiner. Ainsi disparaît le fils de Cléopâtre Sélénée, dernier descendant des Ptolémées d'Égypte. Les Romains annexent alors la Maurétanie. Aujourd'hui, les cultures marocaines et algériennes ne gardent quasiment aucune trace de Cléopâtre Sélénée ou même de la présence romaine dans leur région. Dès leur indépendance au XXe siècle, les pays de l'ancienne Maurétanie vont faire débuter leur histoire à l'avènement de l'islam. Au détour de Tipaza, en Algérie, on tombe aujourd'hui sur un tombeau royal magistral, haut comme une petite pyramide pharaonique, mais de forme arrondie. Il s'inspire des architectures funéraires grecques et berbères et illustre l'incroyable diversité culturelle qu'incarna Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre.
Europe 1, historiquement vôtre.